Ce matin, le Père Jean-François Lefebvre vous a introduit dans la question de la miséricorde dans la Première Alliance. Et moi, cet après-midi, je voudrais très humblement, très simplement aborder quelques petits points pour nous aider à réfléchir sur cette question de la miséricorde dans le Nouveau Testament. On pourrait commencer par prier le Seigneur pour lui demander la grâce de sa lumière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc, je voudrais commencer par donner quelques éléments dans la méthode de cet exposé, parce que il faut se garder d'abord de cette tendance à faire de la miséricorde le tout de la révélation biblique, puisque nous savons bien que dans la révélation biblique, il y a aussi des passages durs, sévère, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et même si on prend si on choisit l'évangile de Luc, qui est réputé sans doute l'évangile qui revient le plus souvent sur la miséricorde, si vous prenez par exemple au chapitre 17, vous savez, il y a des avertissements sur le jour du Fils de l'homme. Qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous savez que les prédicateurs redoutent d'avoir à prêcher sur ce texte, parce qu'il se termine par les vautours, vous savez. Le disciple lui demande « Mais où donc, Seigneur ?» Eh bien, le Seigneur répond « Où sont les corps ou les cadavres ? Là aussi, les vautours se rassembleront. » Et ça se termine comme ça. Alors, c'est un petit peu difficile de prendre la parole, n'est-ce pas, devant les gens, surtout pour parler de la miséricorde. Et pourtant, il serait faux de... Par exemple, j'aurais pu vous faire un bel exposé sur le Fils prodigue, ou bien vous faire un bel exposé sur les passages choisis, des passages sélectionnés de l'Évangile, avec de beaux textes sur la miséricorde. Mais il y aurait sans doute une erreur de méthode d'extraire des textes pour faire dire à l'Évangile qu'il s'agit d'un Évangile de la miséricorde, sachant qu'il y a une alternance. Et c'est une question que je voudrais aborder pour montrer que cette alternance est une miséricorde, justement. Et donc, un point délicat, mais tout très intéressant, c'est de montrer que volontairement, il y a une alternance dans l'Évangile, d'annonce de la miséricorde et aussi de discours plus menaçant. Par exemple, je pense à Luc 13, 24. Luttez pour entrer par la porte étroite. Vous savez, parce que beaucoup voudront y entrer et ne le pourront pas, etc. Et donc, le beaucoup qui ne pourra pas, eh bien, est un discours menaçant, mais qui n'est pas une antinomie stricte et une opposition radicale par rapport au message de la miséricorde. Et c'est là où toute la difficulté du sujet. Et puis il y a un autre sujet que je voudrais aborder, qui est non moins intéressant, c'est la question du scandale. La miséricorde manifestée par le Christ est tellement forte qu'elle scandalise. Par exemple, je pense à l'appel de Lévi. Voilà. Donc le Christ a un regard tellement miséricordieux, tellement bon, il voit tellement la personne dans sa dynamique, qu'il en arrive à sélectionner des personnes qui finalement en font tomber d'autres, qui sont peut-être plus faibles, plus fragiles. Voilà. Par exemple, Zachée, l'évangile de Zachée, c'est un exemple typique, vous voyez. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, magnifique, seulement, qu'est-ce que ça fait sur la foule? Ça provoque des murmures, n'est-ce pas? Je voudrais montrer pourquoi est-ce qu'il y a ce scandale de la misère. Qu'est-ce qui est heurté en nous? Est-ce que nous avons un sens de la justice qui serait en tension avec la miséricorde de Dieu? Un sens de la justice qu'il faudrait peut-être un peu modifier. Alors, mon exposé, il va être tout simple. Il y aura une première partie que j'ai intitulée « Une miséricorde en acte ». Car Dieu ne commence pas par annoncer la miséricorde sous la forme d'un enseignement. Il commence par la réaliser, cette miséricorde. Je pense aux évangiles de l'enfance, où le mot miséricorde apparaît de nombreuses fois, surtout dans Luc. Après ce premier point, la miséricorde en acte, je voudrais montrer combien Luc excelle à expliquer ce qu'est la miséricorde, notamment par une brève étude des trois paraboles de la miséricorde du chapitre 15 de Luc, parce que Luc est le seul à rapporter les paraboles de la miséricorde sous la forme d'un triptyque. Vous savez, le fils prodigue, la drachme perdue et la brebis perdue. Parce que la parabole de la brebis perdue, on la trouve dans d'autres évangiles, mais on ne trouve pas dans les autres évangiles la même chose sous la forme d'un triptyque. Et alors c'est là que je voudrais montrer que, selon le vocabulaire de Urs von Balthasar, il y a une alternativité de la parole de Jésus. C'est un mot un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas de langue francophone. L'alternativité, je veux dire simplement cette alternance entre des paroles de grâce et des paroles menaçantes dans l'Évangile. Voilà. Or, ça fera la continuité avec l'exposé du Père Lefèvre ce matin, qui vous a parlé aussi de ces deux dimensions, hein, de la miséricorde, mais aussi des discours qui peuvent être menaçants, qui peuvent être même sévères, durs. Voilà. Je voudrais expliquer que cette alternativité culmine en Christ sous la forme justement d'une miséricorde. C'est un point qui est peu étudié dans l'Écriture sainte. Et puis ensuite, je voudrais terminer en expliquant en quoi consiste le scandale réalisé par la miséricorde du Christ. Qu'est-ce qui est frappé dans les auditeurs du Christ par rapport à leur connaissance de la Bible? Ce sont des Juifs. Et qu'est-ce qui est choqué aussi en nous? Voilà. Par exemple, l'intendant malhonnête, c'est une parabole qui est un petit peu étonnante. Ou bien l'ouvrier de la 11e heure qui touche le même salaire. Et puis on pourrait, ça culmine évidemment à la fin de l'évangile de Luc dans le salut du bon larron. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire l'absence de justice et la miséricorde. Voilà. Alors, d'abord, quelques mots sur les évangiles de l'enfance. Pour moi, c'est une miséricorde en acte. Le commencement des évangiles, surtout bien sûr Matthieu et Luc, exprime des événements qui sont de la miséricorde en acte. si on lit attentivement le texte. Mais vous savez que parfois l'historicité de ces évangiles de l'enfance a été remise en question à cause de l'absence de témoins oculaires de l'enfance de Jésus, évidemment. Et vous savez que le pape Benoît XVI est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les évangiles de l'enfance », que vous avez peut-être parcouru, hein, dans lequel il défend, avec d'autres exégètes et la commission biblique pontificale aussi, l'historicité, bien sûr, des évangiles de l'enfance, avec cet argument qui paraît assez solide, que Luc s'est consciencieusement renseigné, vous savez, le début de son évangile, après avoir, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès les débuts témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, on pourrait mettre circonstancié, excellent Théophile. Pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus, donc il y a vraiment une insistance. Encore que certains disent, oui, mais là, il s'est inspiré d'auteurs classiques anciens, parce que quand vous regardez, par exemple, Théophraste, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Théophraste, c'est un historien grec qui fait un bouquin d'histoire, et il commence exactement pareil. Il dit, après m'être informé strictement et soigneusement de tous les événements qui se sont produits dans la Grèce antique, je déclare écrire un ouvrage très, très appuyé sur des faits strictement dûment vérifiés, etc. Mais on n'a pas de raison, c'est pas parce que ça correspond à un genre de l'époque, de douter de la pertinence et de la précision des renseignements de Luc. Surtout que Matthieu fait la même chose sans ce préalable, sans cette précaution, vous voyez, oratoire. En tout cas, si vous regardez les cantiques du Nouveau Testament, cantiques que vous connaissez bien parce qu'on les chante aux vêpres et aux laudes, notamment le Magnificat, au verset, c'est en Luc 1, verset 54, « Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. » Et dans le Benedictus, on a aussi la mention de la miséricorde deux fois. « Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, se souvenant de son alliance sainte. » C'est au verset Luc 1, 72. Et puis aussi au verset 78, « Par l'amour miséricordieux du Dieu, l'astre d'en haut vient nous visiter pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. » On a un amour miséricordieux. Et donc, Luc interprète la nativité, cet événement, selon un vocabulaire de la grâce, de la miséricorde, un événement qui s'accomplit dans un cercle de personnes certes qui descendent de la famille d'Aaron et de David, mais qui ne sont pas accueillis par par le haut du pavé de Jérusalem, et donc une naissance qui s'accomplit dans des conditions un petit peu singulières, avec simplement des bergers qui viennent adorer, et les mages qui représentent un petit peu les païens, une universalité, quelque chose de grand, mais d'inattendu, d'un petit peu singulier. Quelque chose qui est étrange, qui suscite l'étonnement. Il n'y a pas de grand prêtre à la crèche. Mais c'est le cas de tout l'évangile. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, mais ce n'est pas seulement le récit de la nativité qui suscite l'étonnement et le renversement des positions qui est évoqué dans le Magnificat. C'est tout, mais aussi le sermon sur la montagne qui suscite le renversement des positions avec heureux les ceux qui pleurent, etc., heureux les ceux qui ont faim et soif de la justice, des persécutés. Donc le renversement de situation, la pauvreté, on pourrait dire, de la crèche, la misère, le fait que l'enfant ne soit pas reconnu par les princes d'Israël, provoque un renversement qui fait que finalement ce sont les bergers qui sont mis en exergue, en valeur, par le narrateur. Et ça anticipe, pour ainsi dire, la totalité de l'évangile, qui est un évangile d'un peu de... L'évangile renverse ce à quoi on pourrait s'attendre logiquement, avec bien sûr le sermon sur la montagne, et puis aussi la thématique du salut des exclus, des pauvres. Dont certains personnages sont un peu l'emblème, je pense au lépreux samaritain par exemple, ou au bon samaritain dans Luc. Donc c'est spécialement évident dans l'évangile de Luc. On dirait que dans l'évangile de Luc, il y a une volonté de mettre en évidence des personnages qui devraient être considérés normalement un peu comme des marginaux. Et puis il y a cette bonne nouvelle, donc cette bonne nouvelle monte et s'accentue jusqu'à la croix, jusqu'au cri de Jésus sur la croix qui demande le pardon pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, il est sûr que cette histoire de la nativité pourrait paraître un peu romantique, mais elle est tout sauf romantique à cause du contexte de haine et de persécution qui préfigure déjà la croix au moment où le roi Hérode veut faire disparaître l'enfant. Et en même temps qu'il y a une miséricorde qui s'exerce, cette miséricorde en acte semble déjà attirer une incompréhension, au minimum, en tout cas objectivement, une violence, un refus, quelque chose d'inverse, pourrait-on dire, du point de vue des hommes. Le massacre des saints innocents, la fuite en Égypte, la prophétie annonçant que Jésus sera un signe de contradiction et que le cœur de sa mère sera transpercé. Là, ce récit, évidemment, fait voler en éclats toutes les représentations et attentes habituelles de ce que pourrait être un roi qui vient dans le monde. Donc, le vieillard Siméon, pourtant, est quelque juste... exprime ce qui se passe exactement et surtout la dimension cosmique et universelle de cet événement qui pourrait paraître petit. L'événement de la nativité peut paraître petit aux yeux des hommes. Bon, ça se passe de nuit dans un petit village, certes la ville de David, mais enfin... ça attire seulement quelques bergers, vous voyez. Et que dit Siméon? Eh bien, il dit tout le contraire, car mes yeux, alors ça se passe au temple à Jérusalem, mais enfin, là aussi, cet enfant, il est présenté comme sont présentés tous les enfants. Cet enfant Jésus, présenté par ses jeunes parents au temple, est présenté comme tous les enfants de son âge. Hein. Car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire, dans le mot salut, il y a le nom de Jésus déjà, Yéhoshua, que tu as préparé à la face de tous les peuples lumière pour éclairer les nations, avec une allusion à Isaïe, Isaïe 2. Et alors, ce que Siméon fait apparaître, c'est que cette miséricorde de Dieu est initiée, non pas pour Israël seulement, mais pour tous les peuples, toutes les nations. Et donc, il voit dans un petit événement quelque chose de grand. Alors, je regarde l'heure. Deuxième acte, les paraboles de la miséricorde. Manifestement, Luc a volontairement regroupé trois paraboles qui se suivent à la queue leu-leu, trois paraboles de la miséricorde, dont une est beaucoup plus longue que les autres. C'est au chapitre 15 de Luc. Et l'introductif de parabole est une controverse sur, justement, la miséricorde. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer, « Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Il leur dit alors cette parabole. Donc, le discours des paraboles n'est pas adressé à des pécheurs, mais à des gens qui sont scandalisés de la relation entre Jésus et les pécheurs. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Dans le judaïsme, il serait requis de ne pas fréquenter les pécheurs, de s'éloigner des pécheurs. Je reviendrai tout à l'heure sur le psaume 1 qui exprime cette recommandation de ne pas fréquenter les hommes et les femmes qui se conduisent mal. Dans le judaïsme, il y a cette crainte d'être entraîné au mal, parce que de même que l'impureté contamine le pur. Hein. Si vous mettez une pomme pourrie au milieu de pommes saines, et que les pommes saines sont en contact avec le fruit pourri, eh bien, ce n'est pas les pommes saines qui vont communiquer leur propriété à la pomme pourrie, c'est le contraire. Donc, de cette observation, de même que en milieu médical, vous savez que les bactéries, elles ont plutôt tendance à conquérir et à pulluler et à envahir des organismes qui n'étaient pas contaminés. De même que si vous mélangez du sang contaminé avec du sang qui n'est pas contaminé, eh bien l'ensemble est contaminé. Et donc, par observation de la nature, les Juifs sont très attentifs à ne pas fréquenter des personnes qui ne sont pas en situation régulière. Alors, le fait que Jésus accueille des pécheurs, même des prostituées, des personnes, des hommes et des femmes de mauvaise vie, et même cette femme de chez Simon le pharisien, vous savez, qui pleure, qui se met à ses pieds, mais c'est une femme qui a une réputation de pécheresse dans la ville. qu'il se laisse toucher et qu'il laisse cette femme approcher ses lèvres de son pied, de sa peau. Il se laisse toucher par cette femme qui embrasse ses pieds. Voyez, il y a là quelque chose qui ne plaît pas, qui déplaît profondément aux Juifs. Et alors il leur raconte ces paraboles. Ces paraboles qui sont des trésors, des perles précieuses, qui sont placées au centre de l'évangile de Luc, qui sont comme dans un écrin, qui constituent la quintessence de l'évangile de Luc, de cette bonne nouvelle, qui culmine par ce triptyque avec la parabole de l'enfant prodigue. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Ce mouvement du père est un mouvement où c'est le cœur qui parle et non pas le sentiment qui pourrait paraître légitime d'un père courroucé qui pourrait exprimer des reproches à son fils, mais plutôt un père qui est saisi de compassion, de miséricorde, et qui laisse parler son cœur avant tout. Évidemment, ce message de miséricorde est un des textes les plus beaux du Nouveau Testament, parce qu'il exprime quelque chose de l'identité de Dieu. Néanmoins, à la fin de la troisième parabole, il n'est plus fait mention de ces gens qui étaient choqués du comportement de Jésus. Luc continue sur l'enseignement de Jésus pour donner le dernier mot à Jésus. Alors ça, c'est un procédé classique de tout le Nouveau Testament, c'est que le plus souvent, on laisse le dernier mot quand il y a une controverse pour montrer que finalement Jésus ferme la bouche à ses adversaires et dit une parole de vérité. On donne la parole en dernier au Seigneur, à Jésus, parce que il calme, il éteint en quelque sorte la controverse. Ces trois paraboles de la miséricorde expriment un peu tout le projet narratif de Luc et cet accomplissement d'une révélation qui ne va pas de soi. Voyez. Et donc Luc veut montrer qu'il y a une résistance à cette stratégie de Jésus et que cette résistance... Eh bien, il arrive même à la vaincre. Il la vainc par le discours, par la patience, par l'explication, par son mode un peu rabbinique de présenter des situations, de mettre des situations sous la forme de tableaux, de tableaux inventés, des paraboles, pour faire comprendre à ses auditeurs ce qu'il fait, et ce qui jaillit de son cœur. Voilà. Troisième point, j'en viens maintenant à l'alternativité de la parole de Jésus. L'alternativité. Ça fait un peu un courant électrique, un courant alternatif. Mais ici, on n'est pas en physique. C'est simplement pour dire que pourquoi est-ce que, si la miséricorde est si importante dans le projet narratif de Luc, pourquoi est-ce qu'il y a des paroles dures dans l'évangile de Luc, dans le même évangile, comme celles que j'ai dites tout à l'heure? ces deux femmes qui sont en train de moudre, mais on n'a aucune explication particulière, simplement une est prise et l'autre laissée. Mais on comprend que il y a là quelque chose de mystérieux, parce que on pourrait se dire pourquoi elles ne sont pas prises toutes les deux, puisque donc il n'y a pas de, il reste un point d'interrogation, il reste un discours qui nous paraît un petit peu étrange, qui semble aller contre le cet extrême de la miséricorde, puisque Jésus va jusqu'à pardonner à ses bourreaux, vous voyez. Alors j'ai trouvé une réponse dans un ouvrage récent là, qui est paru sur la miséricorde. D'un certain Chocholsky, c'est un nom rigolo. Ça s'appelle « Aux sources de la miséricorde ». En tant que pasteur ou catéchiste, nécessairement, on tombe sur ces textes, forcément. On ne peut pas, on ne peut pas continuellement éluder des textes de l'Évangile. Ce ne serait pas fidèle à l'Évangile. Nous n'avons pas le droit de dire, ben voilà, et l'Évangile égale les paraboles de la miséricorde. On est bien obligé de reconnaître que l'ensemble est une bonne nouvelle. Sinon, si on prend une paire de ciseaux et que l'on dit « ces textes, ils nous dérangent un peu, ils sont difficiles à faire entendre », alors on va pas trop les... Bon, on le fait tous un peu, évidemment, parce que quand on a affaire à des enfants, on va pas prendre comme texte d'évangile la généalogie de Jésus... Parce que, au bout d'un moment, ils vont commencer à rire, ou bien ils ne vont plus écouter du tout. Mais on peut le faire une fois, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Non, il ne serait pas fidèle à l'Évangile d'éliminer systématiquement les textes qui nous déplaisent pour des raisons de facilité. Il faut bien, puis de toute façon, vous aurez bien un qui posera une question, non? Au bout d'un moment, si on fait une lecture trop facilitante, en ne lisant que les textes qui nous arrangent et qui vont dans notre sens, je ne sais pas si on est vraiment fidèle à l'esprit de l'Évangile qui est livré qui nous est révélé comme une parole de Dieu qui constitue un tout quand même. Et donc, quand on s'exprime sur la miséricorde, on ne peut pas, à mon avis, si on est honnête, éluder cette question. Et alors, voilà ce que l'on pourrait dire, c'est que Jésus n'a pas dérogé à la tradition d'Israël du discours alternatif, menace et promesse, comme chez les prophètes. Donc, il y a en réalité, la première chose à dire, c'est ça, c'est que premièrement, il y a une tradition qui remonte à une période très ancienne, que l'on peut faire remonter à Moïse, d'un discours qui fait alterner des paroles de grâce et des paroles menaçantes pour conduire à la conversion. Les deux paroles, l'alternance de ces paroles, n'est pas une alternance dans le but, car le but est unique, c'est de conduire au salut. Ce sont des, voyez, et donc l'alternance de menaces et de promesses, de paroles douces et de paroles sévères, est unifiée par un objectif commun du salut, de conduire à la conversion. C'est le propre de toute démarche éducative. Si vous avez des enfants, il y aura des moments où vous allez les encourager, les féliciter, je sais pas, leur donner des gratifications. Mais une vraie éducation ne peut pas consister uniquement en cela. Il y aura forcément un moment où il faudra les reprendre, les corriger, les engueuler, les punir. Mais les deux manières d'agir ne constituent pas deux modes d'éducation, mais un seul, vous voyez. Et donc, il y a bien dans le discours de l'Ancien Testament, comme dans le discours du Nouveau Testament, une alternance, donc un discours alternatif de menaces et de promesses qui sont à considérer ensemble comme les deux moyens que Jésus perçoit pour aider, pour conduire au salut. Et les deux sont une expression de la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde ne s'exprime pas seulement par les paroles de miséricorde. La miséricorde s'exprime par l'ensemble de l'évangile qui est une bonne nouvelle. Une année, je m'occupais d'un groupe biblique et on avait voulu faire une session sur l'Apocalypse. Et alors le titre de la session, c'était « Apocalypse, deux points, une bonne nouvelle » avec un point d'interrogation. Parce que dans l'esprit des gens, Apocalypse égale la mort, le feu du ciel, le cataclysme, l'obscurcissement du ciel. On parle d'événements apocalyptiques, non pas pour désigner des événements agréables, mais plutôt des événements de catastrophe, n'est-ce pas? C'est le sens qu'a pris le mot. Alors que Apocalypse veut dire simplement dévoiler, dévoilement. Et alors, l'un de nous, d'un professeur au studium, Étienne Jonquet, que vous avez connu plusieurs, qui a fait ses études aussi au studium, est en train de faire un doctorat sur les béatitudes de l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. Heureux ceux qui écoutent les paroles de ce livre. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux, etc. Et alors, il y en a 7 comme ça, des béatitudes, des macarismes. Pour exprimer, et alors ça veut dire peut-être qu'il y a une joie d'abord à lire le livre de l'Apocalypse, mais aussi à appeler ce dévoilement de nos voeux. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans nos prières, hein. Que ton règne vienne. Donc nous appelons le déroulement de cette histoire. Père Lefebvre, pendant son homélie, parlait du fait que l'histoire a un sens, hein, que dans l'histoire biblique, c'est un temps fléché, il y a un commencement et une fin, et tout est orienté vers un but, qui est le jugement et le salut du monde. Et donc, il y a aussi une bonne nouvelle qui est attendue, certainement. Et alors, c'est évidemment, on retrouve cette alternance de discours de grâce et de discours menaçants aussi dans les actes des apôtres, pas seulement dans les évangiles, mais on peut prendre par exemple le cas de Pierre qui s'adresse aux Juifs dans Actes 3. Vous savez, ce beau discours de Pierre. Voilà. C'est au verset 12 et suivant. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela ?» C'est après la guérison. « Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit jeu de mots dans le discours de Pierre au verset 26. Alors, ça dépend. Alors, le problème, c'est que ce jeu de mots, ça dépend de. Il est traduit différemment selon les éditions. Je vais lire, moi, ce que j'ai dans la Bible de Jérusalem. C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Donc, on a ressuscité, et dans la traduction œcuménique de la Bible, on a traduit « Dieu a suscité » au lieu de « ressuscité », parce que dans le grec, il y a deux manières de... Il y a deux verbes pour parler de la résurrection. Il y a « egeiro » et « anistémie ». Donc, quand il y a « egeiro », ça veut dire vraiment « ressuscité ».« Anistémie », ça peut vouloir dire ressusciter, mais ça peut vouloir dire aussi faire surgir, susciter, faire advenir. Et ça peut aussi faire allusion à la naissance de Jésus. Dieu a suscité, c'est-à-dire à Dieu. Ça peut prendre les deux sens, ça peut évoquer soit le mystère de la nativité, Dieu a suscité, soit le mystère de la passion-résurrection, Dieu a ressuscité son serviteur. Et Jérôme, dans le latin, a laissé a mis vobis primum deum deus suscitans filium suum. Ça laisse, à mon avis, le double sens. En tout cas, il y a quelque chose qui s'exprime ici dans le discours de Pierre sur le fait que la porte n'est pas fermée. C'est-à-dire que c'est un peu sévère de dire ben, « vous l'avez renié, vous l'avez livré, etc. » Vous avez réclamé la grâce d'un assassin. Et puis après, à partir du verset 17, Pierre essaye de, après les avoir bien sermonnés, il leur explique que ben, c'est par ignorance qu'ils ont fait cela. Et donc le discours s'adoucit brusquement. Donc d'un discours un petit peu sévère et accusateur, tout à coup... Pierre ouvre une porte de salut en leur disant mais oui, bon, ben, vous ne saviez pas, si vous aviez su, enfin, vous espérez par ignorance. Et donc, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné. Pour Urs von Balthasar, Jésus est l'expression définitive de ce discours alternatif. C'est-à-dire que pour lui, Jésus, dans les évangiles, culmine ce discours alternatif, cette alternance pour le salut, en vue du salut. Et donc, l'expression atteint un petit peu son sommet. Donc l'alternance du discours menaçant et du discours de salut, avec aussi des discours parfois très très menaçants et des discours pleins d'espérance du salut. L'espérance maximale est associée au fait que sans aucun mérite, il y a une possibilité, une planche de salut est offerte, et c'est pour ça que le salut du bon larron, exprime quelque chose d'une miséricorde qui se moque du mérite, qui n'exige aucun mérite, pas même le moindre acte, mais seulement une parole d'espérance. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est plus fort que l'ouvrier de la 11e heure, parce que quand même, l'ouvrier de la 11e heure, il a travaillé une heure. Mais le bon larron, il n'a rien fait. Enfin, quand on regarde le droit pénal romain qui s'appliquait en Judée à cette époque, j'ai fait ce petit travail pour un cours que j'ai donné sur Luc 19, sur Zachée. Et je me suis intéressé au droit pénal romain, au cours du 1er siècle, parce que vous savez que la Judée est sous administration de Ponce Pilate, qui est préfet romain, et donc c'est le droit romain qui s'applique, et le droit pénal romain, on le connaît très bien, parce qu'il nous est parvenu, et on a beaucoup d'attestations par Cicéron, et on s'aperçoit qu'il y avait plusieurs manières, il y a plusieurs peines de mort, il y avait des peines de mort qui consistaient en une mise à mort sans souffrance particulière, tandis que les summa supplicia, les supplices extrêmes, dont la croix fait partie, étaient réservés pour des cas extrêmes, les plus graves de trahison par rapport à de haute trahison ou bien des cas particuliers liés à l'abus de pouvoir, faux monnayage, etc. Et ces larrons qui sont pas des enfants de cœur, qui sont crucifiés à droite et à gauche, vous voyez, ces deux personnages là, qui sont crucifiés avec Jésus, ont commis des actes répréhensibles du point de vue du droit. Alors j'en arrive à mon dernier point, 4. Miséricorde et scandale. Pourquoi est-ce que les pharisiens sont scandalisés? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un esprit obtus? Est-ce que c'est pas plutôt que eux sont fidèles à l'enseignement de l'Ancien Testament sur la justice et que Jésus induirait ainsi une rupture de tradition? Parce que si vous regardez la théologie deutéronomiste qui domine dans l'historiographie, l'historiographie c'est l'histoire d'Israël mise par écrit et les prophètes, on aboutit à un schéma de la justice qui est assez carré quand même. Par exemple, si vous lisez, donc c'est cette théologie qui vient du Deutéronome, qui s'est imposée à toute l'historiographie d'Israël, c'est-à-dire Samuel, 1 et 2 Samuel, 1, 2 Roi, etc. Et qui a influencé beaucoup les livres prophétiques. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur, c'est Deutéronome 30. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui et que tu aimes le Seigneur ton Dieu et que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne et tu n'écoutes pas au point et si tu ne te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession. Et donc on a un schéma assez binaire, hein, les deux voies, on appelle ça les deux voies. Ceux qui suivent la Torah et ceux qui ne la suivent pas. Et les bons pharisiens du temps de Jésus connaissaient bien ce texte et l'appliquaient à la lettre, évidemment. Donc, les pécheurs, c'est ceux qui sont promis à la mort. Et les justes, ce sont ceux qui sont promis à la vie. Regardez le psaume 1, qui est quand même le porche d'entrée du psautier. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera fruit en son temps et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il entreprend réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes. On a un espèce de registre qui se tient sur le motif de la rétribution immédiate, voyez. Le chemin, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Mais alors, comment concilier ça avec l'annonce que les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux ? Parce que ces pauvres juifs, ces pauvres pharisiens, allez vous mettre à leur place, voyez, avec comme outil conceptuel Deutéronome 30 et le psaume 1, les deux voies. Surtout ne pas fréquenter le conseil des impies, ni ne s'arrêter dans la voie des égarés, évidemment. Et puis Jésus qui leur dit, les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume des cieux. Ah oui, c'est étonnant ça. Et alors, quid des justes? Comment est-ce que les justes entrent dans le royaume des cieux? Ben, après, voilà. Ils entrent, oui, mais après. C'est quand même bizarre. On avait tendance à penser que le mal était puni dès ici-bas. Vous savez, à propos de la chute de la tour de Siloé, qui a péché? Lui? Eux ou leurs parents? Est-ce que ce sont eux qui... Ou bien l'aveugle-né, qui a péché? Lui ou ses parents? Donc une espèce de théologie très un peu étriquée, étroite, mais qui est conforme, qui semble conforme à une certaine conception de l'Écriture. Mais une conception qui a été durcie et réduite en sous-estimant les annonces vétérotestamentaires de la miséricorde. Si je réduis la justice de Dieu à Deutéronome 30 et au psaume 1, évidemment, j'en arrive à une conception un peu étroite, sclérosée, juridique, judiciaire, on pourrait dire, de la justice de Dieu. Avec un espèce de code, voilà, toi tu as bien travaillé, tu as bien agi, et toi tu as mal travaillé, tu as mal agi. Donc avec l'évangile, évidemment, il y a cette bonne nouvelle que le royaume de Dieu semble ouvert aux pécheurs, à condition, évidemment, d'ouvrir un regard accueillant à la miséricorde. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais alors le verset 32 de Luc 5, c'est Luc 5, 31-32, le verset 32 est difficile. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Alors, on le comprend évidemment, il n'y a pas de repentir pour les justes, puisqu'ils sont justes. Et voyez, et c'est tout le drame du pharisaïsme, c'est que la justice crée une telle carapace qu'elle isole de la miséricorde. Vous savez, c'est dans l'évangile de Jean, quand Jésus leur dit « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Le fait de se reconnaître juste devant Dieu, c'est la parabole du pharisien et du publicain, crée une carapace de justice qui finalement ferme, isole de la miséricorde. Et c'est là tout le message de l'évangile consiste non pas à appeler au péché, mais à appeler à l'humilité, à la vérité, par rapport à Dieu qui seul est saint. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil qu'un schéma binaire où il y a d'un côté les bons et un espèce de manichéisme où on ne voit, où on peut distinguer par l'évidence les bons et les méchants en fonction de leur réputation, de leur attitude. Mais c'est un schéma qui ouvre la porte à une liberté, à une grâce qui aussi fait droit à la souveraine liberté de Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde et qui fait pitié à qui il fait pitié. Qui a pitié de qui il a pitié. Voilà, je vais en arrêter là. Merci de votre attention.